Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'épisode 1 de la saison 3 de Dans le Mille, toujours avec les mêmes animateurs, Jules et Renaud. Renaud et Jules, comment ça va,
Oui,
Renaud?
ça faisait longtemps. Je suis content de te retrouver avec moi à côté pour l'épisode. Puis j'espère que ceux qui regardent à la maison sont autant contents d'avoir Jules de retour.
Ouais, moi aussi, c'est vrai que ça fait du bien, ça fait longtemps.
Ben, on a parlé avec Seb l'autre fois. Je lui ai demandé quand tu es revenu à l'épisode sur la bande dimanche. Il m'a dit que ça faisait 5 mois que tu n'avais pas été là. Fait que le temps passe vite quand même, mais on est content que tu sois là avec nous.
Ouais, puis gars, je vais juste passer par 2 secondes parce qu'après mon segment, il y a lu des commentaires de Nicolas Mercier et de Josiane Gaudreau qui ont justement dit qu'ils étaient contents de me revoir. Donc, merci vraiment, j'apprécie ces commentaires. Donc, on est prêt à commencer une belle saison puis en espérant être là à tous les épisodes.
Oui. On va t'attendre à tous les épisodes. On croise les doigts. Bon, écoutez, avant de commencer dans tous les sujets positifs, tout le fun, il faut qu'on fasse un message quand même. On a eu des grosses nouvelles cet été. On voulait juste donner nos condoléances à toute la famille Goudreau, les deux frères. C'est super triste. Puis on est là en pensée pour la famille.
Puis c'est ça, je pense qu'il y a des joueurs, ben pas je pense, mais je sais qu'il y a des joueurs qui n'étaient pas à l'entraînement hier et aujourd'hui à Brossard parce qu'ils étaient aux funérailles. Donc c'est vraiment, c'est tout récent, là. Donc encore une fois, c'est ça, toutes nos
C'est
condoléances.
marquant, ouais.
C'est marquant. Donc là, c'est ça, il n'y a pas manière de faire un beau lien, mais on va y aller avec notre premier sponsor, commanditaire, partenaire, et c'est Elite Prospect, donc vraiment la référence en termes de statistiques, d'informations que vous voulez savoir sur un joueur. Quand vous faites des recherches sur des joueurs, allez sur Elite Prospect, vous avez tout. Vous pouvez voir, t'sais, la fraternité et tout. Donc
Ben,
c'est vraiment très très complexe. Et avec le premium, ben tu as accès à beaucoup plus d'informations, comme faire des recherches triées selon les années, selon des saisons.
et nous, en fin de semaine, on a eu notre repêchage avec nos amis sur le Fantasy Draft et puis un outil super utile pour vos repêchages parce que je ne sais pas si tout le monde le fait autant en avance que nous. Nous, on avait
Ouais,
hâte. Mais eux, ils ont un guide complet pour le Fantasy Draft et puis avec le code DLM30, avec le 30% de réduction, vous avez accès à ce guide-là et à un guide de repêchage éventuellement. Donc, c'est super pratique.
ah, puis vous avez, c'est ça, tu as dit repêchage, mais c'est ça, ils ont plein de
Ben
documents
oui.
vraiment comme le premium. Depuis qu'on l'a, j'avais jamais remarqué à quel point il y avait du stock. Donc vraiment, on vous le conseille.
Puis, pour faire du changement, un nouveau partenaire pour Dans le Mille cette saison, si vous regardez sur la bande, vous savez c'est qui, Perfo Elite. Perfo Elite, c'est quoi? C'est une équipe d'entraînement, en fait, que ce soit des entraînements mentaux, physiques, sur la glace, hors la glace, que ce soit tout seul ou en équipe, ils couvrent vraiment tout. Ça a été parti par Philippe Roy, puis c'est vraiment une équipe solide là-bas, là. Fait que si vous êtes un coach qui voulait donner un petit edge de plus à votre équipe, vous pouvez travailler avec eux. Si vous êtes un joueur, un parent de joueur, allez regarder ça vaut vraiment la peine. Une super équipe de qualité. Puis ils ont eu beaucoup de clients qui se sont rendus loin, là. Que ce soit vraiment des équipes QMU18 ou bien des joueurs de LNH, ils ont un peu touché à tout, là.
Je pense qu'on est prêt pour commencer. Je veux dire, vous l'avez vu un peu dans le titre et dans la description de la vidéo, là. Mais donc, on va revenir un peu sur l'été des Canadiens. Puis bon, ce qui va se passer dans les prochaines semaines
Ben, c'est ça.
pour établir des bonnes bases. Je pense qu'il y a eu beaucoup de contenus qui se sont faits justement sur tout qu'est-ce qui est arrivé. Puis ça, bon, quand on revient sur l'été, c'est quand même revenir à début juin. Donc, on sait qu'on revient loin. Mais je pense que c'est important que nous, on donne notre avis, puis qu'ensuite, on peut justement continuer la saison sur ça.
Ben, c'est ça, à cause de écoute, plein de circonstances, ça fait en sorte que j'ai fait du contenu jusqu'à avant le repêchage, mais on a arrêté la saison plus tôt. D'habitude, on fait tout le temps un épisode d'après repêchage, puis un live pendant le repêchage. Là, cette année, on était absent pour ceux-là. Fait que, écoute, pour vrai, rentrons là-dedans parce que d'habitude, c'est un peu ça notre pain, là.
Ouais.
C'est quand on arrive au repêchage, c'est là qu'on fait le plus de contenu, nos analyses. Fait que, regardons un peu qui le Canadien a repêché en commençant tout d'abord par les deux gros noms, là, la première ronde, Ivan Demidov et Michael Hayes. Si vous avez regardé les derniers épisodes de Dans le Mille, je pense que on commençait à le dire là, quand on a été obligé de prendre un peu de pause. Ivan Demidov au Canadien, c'est juste la situation idéale. C'est un game changer pour l'équipe. C'est un talent qu'on voit pas souvent. On l'a fait le profil de Ivan Demidov la saison dernière, mais pour le réitérer, je pourrais. Il n'y a pas un joueur que j'aurais été plus content d'avoir, à part si ça avait été, admettons, McLean Celebrini.
Puis même là, on aurait pu avoir le débat. Puis je pense qu'il va y avoir ce débat-là qui va se créer à un moment donné. Bon, on verra vraiment comment ça va se dérouler parce que Celebrini, c'est un joueur qui va être très complet. Mais je pense que Demida a le potentiel d'aller beaucoup plus élever l'offensive que Celebrini. Donc, à voir, mais c'est sûr que c'est ça. C'est le game changer que le Canadien n'a pas depuis peut-être les 30, 40 dernières années. Je veux pas commencer à faire des c'est le meilleur joueur depuis Naslund ou, tu sais. Fait que je veux qu'on en reste à Demidov est un game changer. Il est incroyable. J'ai regardé la date. C'est 3 matchs en Russie. Bon, c'est sûr que c'est dommage de son utilisation en Russie qui peut, surtout dans le dernier match, une présence en troisième période. Ça peut un peu, faire peur aux fans. Puis il faut quand même réfléchir à le coach du SKA Saint-Pétersbourg va coacher pour gagner. Il va pas coacher pour développer un joueur qui s'en vient dans la Ligue nationale l'année d'après. Puis là, je comprends quand même que ne pas faire jouer Demidov pendant la troisième période, c'est quand même ridicule quand on le voit jouer. C'est comme un des joueurs les plus excitants offensivement. Là, je parle de l'équipe. Mais il faut quand même revenir au fait que ce coach-là est pas là pour développer notre joueur. Il est là pour faire gagner son équipe. Donc, c'est ça la KHL. Je pense que il va trouver une manière Demidov de jouer ou de se faire jouer en troisième période. Je pense qu'il va aussi apprendre à jouer peut-être plus défensivement pour être plus comment dire utile à son coach, à son équipe. Mais bon, moi je suis pas inquiet. Je pense que pour l'instant là, ça s'enligne bien.
Oui, puis c'est des situations. Écoute, ça arrive. On le voit même à Montréal des fois qu'un joueur monte du Rocket, un jeune, puis finalement son premier match. Il y a 6 ou 7 minutes de jeu pendant le match. Et c'est le début de saison. Il a juste joué 3 matchs. On verra ce qui arrive. Comme je le dis, c'est sûr que lui, dans sa tête, c'est pas je le développe pour donner le meilleur joueur au Canadien. Là. Il n'est pas au Rocket. Mais c'est une situation.
Il n'est pas affilié. Là.
Mais sa première saison à KHL, c'est quand même une situation normale que dans les 3 premiers matchs, ça ne soit pas à lui qu'on fasse 100% de la confiance en 3e période. Puis c'est une situation qu'on a vue ici aussi. Pour parler du 2e joueur qu'on a pris, Michael Age, écoutez, on je pense que ça vit le depth qu'il y a au centre dans le Canadien, c'est vraiment extrêmement complet. Là. Si on n'avait pas notre 3e centre avec Owen Beck, mais maintenant on l'a avec Michael Hage, puis tu sais, Michael Hage dit 3e centre, c'est pas son le plus haut que ça pourrait être.
Son plafond.
Il pourrait vraiment le dépasser, mais tu sais, c'est un joueur vraiment très complet. Puis dans le pire des cas, moi, c'est le 3e-4e trio où je le voirais finir. Tu sais, je pense pas que c'est un gars que son jeu est déjà assez complet pour qu'on le voit. On voit comment ça va s'adapter à la LNH. Fait que c'est quelqu'un que je suis confiant qu'il va avoir un impact sur l'équipe. Puis, tu sais, quand on regarde tous les jeunes, surtout dans la position de centre, c'est vraiment facile de voir. C'est sûr qu'on peut tout le temps avoir des petites surprises, mais c'est quand même facile de voir ça va être qui nos prochains 4 centres. Puis, c'est peut-être qu'il y en a un qui va dépasser l'autre par surprise, mais l'important, c'est qu'ils sont là. On a le talent au centre du Canadien. Puis ça, c'est une... Vous demandez à presque n'importe quel DG par où est-ce que tu veux bâtir une équipe. La défense, le gardien de but, c'est bon, mais en attaque, tu dis pas un ailier droit qui marque beaucoup de buts. Non, je veux un bâtir autour d'un centre à la base.
Mais moi, pas que je suis en désaccord avec le fait que Age peut jouer sur un 3e ou 4e trio, mais je pense que ce que je trouve c'est un point positif de ce draft-là, c'est qu'ils sont allés pour un peu le boom. Ils sont allés pour un joueur qui va jouer sur le top 6. Ils sont allés pour, si ce joueur-là se développe bien, ça va être un vol. Au lieu d'y aller pour le... Puis là, Moi, c'est mon avis, mais je trouve que Sacha Boisvert, Marek Vanacker, c'est des joueurs un peu l'inverse. C'est des joueurs qui ont un plancher beaucoup plus élevé, donc que leur chance de se rendre dans la Ligue nationale est plus élevée, mais leur chance de vraiment avoir un impact digne de ce nom, selon moi, est plus bas que Age. Mais Age, moi, je pense que c'est boomer bust. Ça veut dire que il y a vraiment des chances que ce gars-là se ramasse sur un top 6. Puis moi, j'y crois. Le talent, il est là. Je pense qu'il manque un peu de vision du jeu qui va se développer à Michigan cette année. Mais sinon, je trouve que, comme tu l'as dit, il y a vraiment des atouts qui font que tu peux voir comment ce joueur-là peut se rendre dans la Ligue nationale. Mais je pense que justement, en tout cas, en ce moment, selon moi, il n'a pas développé le plan B qu'on parle. Qu'est-ce qu'il faut pour être un joueur de 3e ou 4e trio? 3e, à la limite, je pourrais accepter si c'est un 3e trio plus offensif. Mais quand même, je pense que Age, en ce moment, c'est vraiment un boomer bust. Mais c'est pas négatif. C'est juste dans le sens que c'est moi, ce que j'aime là-dedans, c'est justement d'y aller pour le high ceiling. Tu sais, le plafond élevé, d'y aller au 21e rang d'une sélection qui va demander du travail, mais qui peut rapporter très gros. Puis ça a rarement été fait par les Canadiens dans les dernières années. Puis on le voit juste, mettons, avec un Philippe Mécher qui, ben en fait, c'est un boomer boss, Philippe Méchard aussi, mais il a moins de latitude.
Mais tu vois, comparer les deux, là, moi, je trouve que Michael Hage a tellement plus les atouts qu'il faut pour venir, dans le pire des cas, tu sais, justement, si ça ne boum pas, gabarit, venir comprendre. Mais justement, tu sais, un centre, un gabarit, puis un jeu. Tu l'as dit, il manque un peu un aspect de hockey sense. Mais moi, je trouve que c'est quand même un joueur qui est capable.
Vision du jeu.
Qui est capable d'être responsable. Puis c'est pour ça que moi, je suis pas tant inquiet que si jamais ça boume pas. Moi, je pense pas que c'est boom or bust. Moi, je pense qu'il y a quand même un potentiel. C'est un gars assez intelligent que tu pourrais enligner pour. Après, c'est sûr que l'idéal, puis le talent, il l'a, c'est que ce soit un joueur de top 6. Puis ce potentiel-là est là, puis c'est pour ça que c'est un choix excellent. Puis c'est vrai que c'est peut-être un gars moins safe pour les 3-4e trio que Sacha Boisvert, mais comparé à Philippe Mischer, je trouve pas que c'est la même qualité de boomer boss. Philippe Mischer, quand on l'a drafté, il jouait pas dans le centre, c'était pas un joueur physique, il y avait tellement de trucs qui lui manquaient. Il était excitant, c'est un joueur qui peut produire, il l'a montré cette saison, mais il y avait des gros trucs qui manquent. Tu sais, justement, on dit Michael Hage, son jeu, il y a des aspects qui font en sorte que c'est quand même facile de le voir dans la LNH, de le transposer un peu son jeu dans la LNH. Philippe Mischer, à son année de draft, c'était pas ça du tout. Puis, mais là, écoute, je pense qu'on va en reparler dans la section du camp parce qu'il est là, mais tu sais, est-ce qu'on est rendu à un point où quand tu le regardes jouer, tu le vois dans la LNH? Pas encore.
C'est ça. C'est que Mischer, j'allais te dire, on va en reparler et vous dire, on va en reparler plus tard. Vers la fin du podcast quand on parle du camp du Canadien. Mais donc, ça pour dire que moi, la première ronde, puis il y en a plusieurs qui l'ont dit que, justement, la première ronde du Canadien, même s'il faisait juste des choix complètement lancés, tu sais, comme par la fenêtre dans la deuxième journée, donc la ronde 2 à 7, ils avaient pareil gagné le repêchage pour dire que, justement, ils sont allés chercher des joueurs qui pourraient vraiment venir changer l'allure du Canadien. Donc là, si on se passe à la deuxième journée, on va y aller avec le fils d'un ancien capitaine du Canadien, Atos Koivu, qui a fait son premier point dans son premier match en Finlande, dans la Ligue professionnelle de Finlande, la Liga, aujourd'hui. Donc, Atos Koivu, donc, c'est encore une fois, on est en troisième ronde, on ne va pas commencer à avoir les mêmes attentes et on n'a pas tant de choses à dire. Je veux dire, ça a été difficile de voir le voir jouer, mais moi, la chose que j'ai remarqué de Atos Koivu, c'est qu'il n'hésite pas à tirer. Il a un meilleur tir que son père avait. Il a peut-être plus un style de jeu à la Mikko. Mais bon, moi, c'est ça. À date, je vais attendre de voir.
Il faut se rappeler aussi que Sacha Koivu, pourquoi est-ce qu'on l'appréciait autant à Montréal? C'est vraiment pour le leadership. Tu sais, quand on parle de jeu sur glace, oui, il amène beaucoup à une équipe, mais c'était pas le joueur, c'était pas le McDavid du Canadien. Mm-hmm. Là. C'était vraiment ce côté-là de leadership. Fait que, tu sais, que Atos soit juste à ce niveau-là, ça amène quelque chose à une équipe, mais tu sais, si il peut être encore plus au Canadien, c'est quand même un beau shot in the dark. Après, c'est ça, comme tu as dit, avec où est-ce qu'il jouait, à cause de l'horaire puis à cause des accès qu'on a, j'ai pas énormément. Par contre, au moins, un truc qu'on a eu, c'est que vu que vous êtes à Montréal, si vous êtes sur Twitter, si vous êtes sur les réseaux sociaux, l'année dernière, on a eu quand même beaucoup de clips de Astos. Donc, dans les joueurs qu'on connaît pas, c'est un de ceux qu'on connaissait le mieux. Ouais. On peut dire ça comme ça.
Fait que bon, si on continue avec le deuxième choix de troisième ronde, Logan Sauer, un joueur de la BCHL qui là s'en va en NCAA, c'est un Canadien, il s'en va jouer pour Providence College. Il y a des gars, mettons, comme Snake Boisvert qui pensent que c'est juste un rugueux. Puis il y en a d'autres qui disent qu'il y a vraiment un plafond offensif élevé. Je ne me rappelle plus c'est quel joueur, mais un de ses coéquipiers, je pense, qui avait justement dit à quel point sérieux il était comme peut-être une carte cachée. Donc, ça va être intéressant de le voir cette saison dans la NCAA. Je veux dire, moi, je suis content qu'un joueur de troisième ronde ait une place en NCAA en ayant joué dans la BCHL. Donc, tu sais, mettons, l'année passée, puis là, c'est vraiment pas le même rang de joueur, mais tu sais, on pense à un Bradley Nadeau qui a joué, qui est passé de la BCHL à la NCAA, puis il y a eu un très beau switch de ligue, en fait. Donc, j'ai hâte de voir Logan Sauer. Puis en plus, Providence, apparemment, il y a une très bonne ligne de freshmen qui rentre. Mais pas une ligne, là, mais une gang de freshmen qui rentre. Donc, ça pourrait être une équipe qui surprend cette année dans la NCAA.
Après ça, on a Owen Prod. Ça, c'est un grand défenseur. Lui, c'est Hamilton, il me semble, qui joue. Mais maintenant, ils sont plus à Hamilton.
C'est Brentford.
Mais les Bulldogs, c'est ça. Les Brentford Bulldogs, un grand défenseur. Assez responsable, a montré quelques flashs d'offense. Il était assez agréable à regarder jouer. Puis écoutez, on a une défense quand même déjà assez remplie aux Canadiens, comme on va voir encore une fois avec le camp tantôt. Fait que ça enlève un peu une pression sur ses épaules. Ça n'a pas besoin d'être le savior, là, tu sais, si c'est un choix plus tard. Puis, soit ça devient un bon défenseur responsable qui amène un tout petit peu d'offense. Donc, tu sais, bon pour peut-être 5, 6e défenseur.
Oui.
Ou bien, sinon, tu sais, c'est pas grave, il n'y a pas de pression dessus. Mais c'est ça le type de joueur que c'est. Un grand défenseur responsable qui a montré quelques flashs d'offense. Donc, c'est intéressant, mais c'est pas le plus haut ceiling des joueurs qu'on a pris.
Non, mais c'est important de noter que c'est un homme fort. C'est,
oui, oui, oui.
Puis quand je dis homme fort, c'est son style de jeu, dans le sens que c'est un joueur qui veut faire mal quand il frappe. Puis il l'a dit à plusieurs reprises, justement, qu'il veut devenir ce joueur qui est redoutable. Je me rappelle plus exactement à qui il se comparait, mais c'était dans les genres de Chris Tanev, là, des gars qui sont qui font mal, qui n'aiment pas jouer. Donc, tu sais, est-ce que il va arriver quand Strouble puis peut-être Jacker ouais. vont avoir, tu sais, on sait pas c'est quoi le futur, mais ce gars-là il est là dans 3-4 ans.
Il va être le fun à avoir au Rocket League, tu sais, dans la NHL, c'est du jeu physique. Fait, voir sa première ouais. année là-bas, ça va être intéressant aussi si c'est par là qu'il passe.
C'est ça. Puis bon, ben le prochain joueur, Tyler Tarp aussi, c'est un homme fort, un gros 6 pieds 4, 6 pieds 5. Lui il joue pour les Giants de Vancouver. Et lui, ben c'est ça, il est quand même assez vocal là, qui veut surprendre le Canadien et tout. Donc, j'ai hâte de voir, parce que des fois, des gars de 6 pieds 5 de même ou 6 pieds 4, je ne m'en rappelle plus exactement, là, mais ils arrivent au camp, puis même s'ils ont 18 ans, à cause qu'ils sont gros comme ouais. ça, s'ils ont un peu de volonté, ils peuvent surprendre puis juste montrer que ils sont plus proches qu'on le pense peut-être. Puis c'est ça, je veux faire le parallèle avec Florian Jacquet, que tu sais, on va en parler plus tard, mais dans le sens que l'année passée, il avait peut-être pas monté les meilleurs flashs, mais quand il est arrivé en fin de la saison à HL, c'était déjà un joueur qui était prêt à jouer dans ce
club-là. Ouais, c'est ça.
Donc bon, je veux pas m'éterniser là-dessus, mais Tyler Turk, intéressant. Le prochain, le goaler.
Ben oui, écoute, as-tu vu un match jouer?
Ben moi, j'ai vu en U18, okay. mais Vec Vanax, là, le, ouais. bon, le goaler, Letton. Moi, je pense que c'est
Letton. J'avais complètement oublié qu'il était au U18.
Mais donc, c'est un goaler qui était supposé aller jouer pour Boisbriand, mais finalement, il s'est fait repêcher par l'Acadie Batters juste avant de tomber dans les bras. En tout cas, c'est très compliqué pour dire que Vec Vanax, au lieu de jouer en LHMQ, va jouer en BCHL. Mais dommage, bon, il ouais. y en a beaucoup des goalers depuis que je regarde et qu'on regarde les tournois U18 et U20 qui, dans des petites équipes de même, des fois font des surprises et font des performances vraiment impressionnantes. Donc, est-ce que lui, c'était juste une performance impressionnante dans un tournoi ou il y a quelque chose de plus? Ben, Vincent Riendeau, le scout des gardiens du Canadien de Montréal, a pensé qu'il y avait plus à aller chercher. Donc, ça va être intéressant.
On prend un risque. Après ça, sinon, on a Merrill, encore un grand attaquant. Il s'en va en BCHL. Lui, il a déjà signé pour après, ben, signé commit, là. Je pense que c'est plus verbal qu'autre chose. Pour, après ça, aller jouer à NCAA avec Harvard. Fait que, encore un joueur qui arrive dans le système américain. Lui, je l'ai pas vu jouer, mais de ce que j'ai vu après le repêchage, c'est justement encore un joueur avec quand même de la taille, mais qui reste beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à travailler. Encore un peu awkward sur ses skates. Donc, beaucoup à travailler, mais un grand centre. Fait que le projet est intéressant, puis il est juste commit avec une équipe de NCAA. Fait qu'on devrait le voir en NCAA dans une année, deux années. Ouais.
Ça se dirait que c'est pas cette saison, c'est la saison d'après. Donc, il ferait un peu comme Farrell, là, de prendre une dernière ouais. année, sauf que Farrell, c'est dans un niveau un peu plus supérieur. Moi, le dernier que je peux vraiment dire quelque chose dessus, c'est Makar Kanin, un choix de 6e ronde, un Russe qui, encore une fois, ça me fait penser un peu à, en 2020, il y avait un Russe qu'on avait repêché en 6e ou 7e ronde, Alexander Gordin, qui sont vraiment des joueurs avec un talent offensif vraiment élevé, dans le sens que puis je pense même que Kanin est beaucoup plus élevé que Gordon. Gordon, il avait un bon tir, mais Kanin, c'est vraiment ses mains, c'est son agilité, son tir est bien, mais c'est vraiment là, il est très créatif et tout. Donc, encore une fois, lui, c'est boom or bust, mais dans le sens qu'en 6e ronde, ça, on ouais, appelle plus vraiment ça, ouais. ça là, c'est tout ça pas mal. Mais dans le sens que Kanin a vraiment, justement, un plancher très bas, dans le sens que ce joueur-là pourrait ne jamais se rendre dans la KHL juste parce qu'il n'aura pas appris à se développer pour devenir professionnel, ou il va devenir carrément un joueur très bon en Ligue nationale parce que, justement, c'est un joueur très offensif, il est petit, mais bon, des fois, est-ce que c'est le prochain Panarin? On ne sait pas. Je veux dire, Panarin, il n'a jamais été repêché.
Ouais.
Je suis pas en train de dire ça, mais...
Puis notre dernier choix à Bergvist, un Suédois, point.
Un défenseur de 6 pieds 2, donc ça va être intéressant de voir.
C'est pas la première fois que le Canadien arrive avec une surprise, mais bon, ça fait un peu le tour du repêchage. Maintenant, on va passer quand même rapidement, parce que on en a tellement entendu parler de cet été, mais on trouvait ça quand même important de le mentionner, vu le titre de l'épisode. Là, on fait un retour sur tout l'été, pas juste le repêchage. Déjà, Si on y va en ordre chronologique, à la base, on a eu deux extensions de contrat. La première qui est arrivée, c'était Juraj Slafkovský, 8 ans à 7,6 millions, donc dans les mêmes eaux que Suzuki et Caulfield. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui a besoin d'être convaincu, là, ça avait l'air d'être pas mal unanime que c'était un excellent contrat. Slafkovský s'est amélioré la saison dernière, a pris un pas de géant, puis il y a beaucoup qui s'attendent à ce qu'il prenne un autre pas de géant cette saison. Écoutez, c'est le type de joueur que tu as besoin dans ton équipe, puis ce contrat-là était juste logique. Puis l'autre qu'on a eu, c'était Caden Goulet, 5,55 millions pendant 6 ans. Donc, un peu moins long, mais un peu moins gros. Écoutez, il frappe, il fait mal. Vous l'avez vu, Caden Goulet, les erreurs sont juste disparues. Là, tu sais, il y en avait un peu au début, là, il est rendu responsable, puis en plus, il fait mal. Tu as besoin, un peu le même point que Slafkovský, tu as besoin d'un défenseur comme ça, sans que ça soit ton first deal, tu as besoin d'un... Puis là, on l'a pour 6 ans pour un prix très raisonnable, surtout avec le cap qui va monter. Bientôt.
Fait que... Bien, considérablement dans les prochaines saisons, dont cette saison. Mais moi, de ce que j'avais entendu, c'est qu'en gros, le camp de Goulet demandait 8x8 comme Jake Sanderson. Et donc, pour Kent Hughes, ce n'était pas discutable. Donc, ils ont descendu à descendre un peu les années, mais le rendre à 5,5. Donc, moi, je trouve ça complètement justifiable. 2 ans
pour... c'est quoi? Ben, 3,50 millions, c'est quand même excellent. T'sais.
Oh oui, non, c'est sûr. Puis, je veux dire, quand Goulet va être à sa prochaine signature, bon, il aura 28 ans environ. Donc, ça va quand même faire que, même pas 28 ans, il va avoir 29 ans. Donc, ça va être quand même dans son prime, dans la fin de son prime. Donc, bon, ça va être là qu'il va aller chercher le gros chèque. Mais on verra. Mais, tu sais, Goulet, comment je le vois, c'est pas un premier défenseur. Est-ce que c'est un deuxième défenseur? Oui, je le crois. Puis, quand on parle aussi de Rennbacker, qui est peut-être pas le premier défenseur, mais qui peut être un deuxième défenseur, ben, quand t'as deux deuxièmes défenseurs, là, comme Rennbacker et Goulet, mettons, dans ton organisation, je trouve que c'est très solide. Ça peut venir pallier au manque de ce premier défenseur-là, surtout si tu as deux autres défenseurs qui sont capables d'être des troisièmes, quatrièmes dans le sens. Tu sais, c'est une construction d'équipe fait que Goulet vraiment est un pilier. Puis quand l'autre fois au podcast à la fin, on demandait un peu aux gens c'était quoi leur trio qui était des intouchables chez le Canadien, mais moi j'ai mis Goulet, Suzuki et Caulfield, mais et Slafkovský, désolé, mais Goulet pour moi, j'ai mis Slafkovský à la place, mais dans le sens que pour moi, Goulet est l'intouchable à la défense en ce moment. Je pense qu'il est encore plus intouchable que Hudson parce qu'il est prouvé, il est bien à Montréal, puis à date, c'est juste des années vraiment. Je pense que le potentiel est encore là pour éclore. Là.
Mais c'est ça, là, peut-être que quand on va s'en reparler là, dans 2 ans, on va dire ouais, finalement l'intouchable en défense c'est Rennbacker. Ouais. Mais c'est ça que Goulet a. En ce moment, c'est qu'il a montré que ce niveau de jeu-là, ce qu'il était capable de bien faire en junior, il est capable de le faire encore mieux en LNH. Puis, tu sais, on parle de à quel point il frappe, il fait mal, mais Goulet, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a d'autres aspects à son jeu. Là. Tu sais, si vous regardez les matchs, il tire, il bouge la rondelle. Tu sais, est-ce que c'est un gars de powerplay élite? Non, mais est-ce qu'on le paye comme un gars de powerplay élite? Non, fait que, tu sais, c'est un excellent contrat pour quelqu'un qui va être peut-être le premier défenseur sur ta deuxième paire, admettons. Tu sais, c'est ça. Vraiment, la pièce qui colle tout ensemble dans ta défense.
Puis on peut le voir avec deux autres signatures qu'il y a eu cet été de défenseurs gaucher et droitier. Donc le premier, ben c'est Barron qui a été signé 2 ans à 1,15, je crois, là, c'est des peanuts là, dans le sens que 1,15 et quelques. Mais donc pour lui, c'est vraiment un peu le make it or break it. Là. Je sais pas comment le dire, mais dans le sens que tu sais, pour moi, c'est un peu un. Barron, t'as grande chose à nous prouver, puis à ce salaire-là, c'est vraiment rien de convaincant. Le point positif de ce contrat-là, c'est qu'il fait vraiment pas mal et il est facile à bouger. Donc, si, mettons, Barron venait à prouver un petit peu qu'il appartenait à la Ligue nationale de manière constante, c'est très facile à bouger, à échanger, puis ça peut être attirant pour une équipe. Mais ça peut aussi être très attirant pour une équipe quand Barron va au ballottage et se fait réclamer parce qu'il n'est plus exempté du ballottage. Et la deuxième signature, Harbert Jacky, 2 ans à 1,3 million, qui selon moi est vraiment un très très bon contrat dans le sens que dans les 2 prochaines années, est-ce qu'on pense vraiment se rendre en finale à la Coupe Stanley? Je pense pas. Mais quand même, ça donne la latitude sur le catch salarial. Puis Jacky, bon, on le sait, il a passé une saison, la moitié de la saison à peu près dans la AHL. Donc, c'est sûr qu'il n'allait pas demander un gros salaire. Est-ce que j'aurais pu aimer un contrat plus long, puis mettons, garder Jacky à 2-3 millions, puis on se ramasse avec un joueur de troisième paire garanti pour les 4-5 prochaines années? Oui, mais encore une fois, justement, je l'ai dit, je ne pense pas que c'est garanti qu'il est sur la troisième paire. Il y a tellement de d'effervescence à la défense et de joueurs que je pense qu'en ce moment, Hughes, il sait pas c'est compromis à un joueur.
Non, puis Xhaka, on l'aime beaucoup, là, il amène une énergie à l'équipe, mais cette année, il y a eu des grands moments aussi où c'était pas constant. Il amenait pas tout le temps la même énergie de match à match, puis c'est pour ça qu'il allait passer une petite partie de la saison en AHL. Fait que, est-ce que, quand on parle du contrat de Slafkovský, il l'a eu, il s'est prouvé cette saison. Goulet, il s'est prouvé cette saison-là. Après, c'est sûr que Xhaka, c'est pas le même calibre que ces gars-là, mais est-ce qu'il a prouvé que ça serait ta roche de troisième paire? À la fin de la saison, ça allait bien, mais ça n'a pas été ça toute la saison. Fait que là, il y a deux saisons pour justement montrer, hey, moi, je mérite mon contrat de 4, 5, 6 ans à 3 millions. Oui, ça paye cher pour ma troisième paire, mais je vais être ta roche de troisième paire. Prouve-le, puis après ça, il va l'avoir parce que pour le moment, peu importe l'amour qu'on a pour lui, c'est pas encore ça. Sinon, écoute, pour finir, je pense que c'est le move de l'été qu'on a le plus parlé.
Ouais.
Je me souviens quand on l'a vu sur Twitter ensemble, les textes concernés la première fois, c'est incroyable là, le deal qu'on a eu. Donc, Patrick Laine s'en vient à Montréal avec un choix de deuxième ronde pour seulement Jordan Harris. Jordan Harris qui est un défenseur mobile, qui est une belle présence dans la chambre. C'est une perte, mais réalistiquement, on n'avait pas vraiment besoin de lui. C'est quelqu'un qui était au bout de ta langue à chaque fois qu'on parlait de rumeurs d'échange. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher? Puis, si on l'avait juste échangé pour un choix de deuxième ronde, tu sais, on aurait été, ah, OK,
c'est pas pire, c'est tout.
Puis là, en plus, tu as Patrick Laine. Puis il y en a qui vont dire, oui, mais Patrick Laine, 8,5 millions pour 2 ans. Puis nous, c'est une équipe, on est une équipe pour laquelle ça fait aucun mal. Là, les Canadiens, ça change rien à leur masse salariale. Avoir 8,5 millions de Laine, c'est pas comme un stress. Puis c'est juste pour 2 ans. Fait un coup de génie pour vrai. Là, je sais pas comment on l'a eu les Canadiens l'ont eu pour autant peu.
Non, puis c'est vraiment un peu un événement de circonstances dans le sens que justement, ouais. Laine ne valait plus rien à cause de son gros contrat. Est-ce qu'une équipe qui voulait aspirer à la Coupe Stanley allait aller signer ou échanger ce joueur-là?
Ben là, Minnesota, ils ont essayé, mais
non, parce qu'il y avait une clause de non-échange. Donc, voilà, c'est ça. Fait que, Minnesota ont essayé, mais encore une fois, c'est ça, Minnesota. C'est peut-être une des seules équipes qui pouvait se le permettre. En tout cas, je suis intrigué de savoir qu'est-ce qu'ils donnaient parce qu'eux, ils ont beaucoup de salaires qui sont un peu gaspillés à cause des buyouts de Parisé. Et là, pourquoi j'oublie le défenseur Sutter. Mais donc, c'est ça. Encore une fois, c'est un peu du Kent Hughes. Quand on dit qu'il joue aux échecs pendant que les autres jouent à la dame, c'est dans le sens qu'on dirait que tous ses moves sont réfléchis et il prend le temps. Tout est jamais fait pressé. Et justement, comme tu le dis, si Jordan Harris, on l'avait échangé contre un deuxième choix en 2026, qui devrait être quand même dans le top 15
de
la deuxième ronde, on aurait été content. Mais en plus, on va chercher un joueur qui pourrait compléter notre top 6, qui pourrait relancer sa carrière. On sait que Martin St-Louis a fait ça pour une couple de joueurs que l'organisation va être prête à donner du temps et à donner des chances à l'aîné pour se remettre. Donc, je vois pas comment cet échange-là peut être une défaite.
Puis, il a l'air content d'être là. Tu sais, c'est ça le truc. Après, est-ce que c'est notre meilleur ami? Non, on le connaît pas. On sait pas c'est quoi son vrai feeling, mais tu sais, il y a des équipes où il voulait pas aller. C'est pour ça qu'il y avait le no trade clause. Puis quand il arrive ici, il a l'air heureux dans les entrevues. Il dit qu'il est enthousiaste, qu'il a lui aussi envie de se remonter. Fait que tu sais, tous les signes pointent vers... parce que pour que lui reprenne le pace où il était. Oui, il y avait d'autres problèmes qui n'étaient pas dus à lui, mais tu sais, il faut aussi mettre du sien. Il ne faut pas qu'on ait un joueur complètement découragé qui lui a laissé tomber, qui dit « Hey, moi, je suis un joueur de 50 points maintenant. Je finis mes 2 ans à 8,5 puis après ça, je prends un contrat plus petit. » Il faut un joueur motivé, puis pour le moment, et comme je dis, on n'est pas dans la chambre, là, mais ça a l'air d'être ça qu'on a eu. Fait que c'est vraiment excitant. Là.
Non, puis sincèrement, si j'étais lui, puis bon, je suis loin d'être lui en termes d'habileté sur la glace, hein, c'est ça. Enchanté. mais dans le sens que un joueur comme Laine qui a 2 ans encore un bon salaire, qui a des aptitudes qui peuvent être à la part là et même peut-être plus haut, je pense qu'il voit que c'est sa dernière chance. Parce qu'à un moment donné, comme même Pierre-Luc Dubois, à un moment donné, après avoir fait 2-3 équipes et que là, ça marche pas à chaque place et que là, tu n'es pas capable de remonter. Le prochain contrat de l'année ne va pas être 8,7 millions. Ça va être très loin de ça. Puis est-ce que ça va être ton dernier contrat dans la Ligue nationale? On ne le sait pas. Ouais. Mais dans le sens que c'est un peu peut-être sa dernière chance. Dans le sens que là, à un moment donné, quand tu es rendu à 28 ans, là, je parle dans 2 ans, Les équipes vont pas vous te signer en mode « Ah, tu as peut-être le potentiel de revenir à qui tu étais à 20 ans. » À 26 ans, je pense qu'on peut encore croire au fait que, quand
Ouais.
que le joueur qui était à 20 ans, il y a manière de le retrouver. Mais à un moment donné, quand ça fait 8 saisons que tu le fais pas, ben là, ça devient l'histoire du passé et il y a des jeunes qui viennent de prendre ta place. Donc, vraiment, c'est sa dernière chance un peu, puis je pense que justement, il a l'air prêt à affronter le marché de Montréal, puis je pense qu'il va, comment dire, il thrive, il va...
Moi,
Comme
il
c'est...
va effleurer, éclore,
Il va, oui, il va
rééclore.
éclore dans ce marché-là qui, lui, c'est un joueur qui a besoin d'être la star, qui a besoin d'être l'attention. Donc, j'ai hâte de voir à quel point, justement, il va être capable aussi prendre la pression des bas quand ça va moins fonctionner. Mais bon, moi, pour finir là-dessus aussi, Harris et Jonathan Kovacevic, deux gars qu'on allait peut-être perdre pour des peanuts
Ouais.
au ballottage et autres qu'on a échangés. Kovacevic contre un choix de quatrième ronde, mais dans le sens que je trouve que
Ouais.
c'est très, c'est la gestion d'avoir vraiment excellent de la part de Kedjius.
Bon, maintenant, écoutez, pour finir, on va regarder. En fait, je viens de penser, on aurait
On
tellement
aurait
dû
dû
mettre
mettre
la
la
maudite
photo.
photo. Mais si vous regardez, si vous écoutez en fait le podcast audio, ouvrez sur les réseaux sociaux des Canadiens la liste des joueurs du camp parce que là, c'est ça. On va pas faire un survol autant gros que l'année dernière où on avait fait nom par nom. Les joueurs qui sont dedans, parce qu'il y en a finalement qui sont là parce que c'est pour juste faut qu'il y ait des gars au camp, tu sais, à la fin de la journée, je pense à des Charles Savoie, c'est ça. Charles Savoie qui, tu sais, Charles Savoie jouera pas pour le Canadien l'année prochaine, n'est pas signé pour le Rocket. Fait que, tu sais, peut-être qu'après un camp extraordinaire, mais tout ça pour dire que c'est pas eux les plus excitants au camp. En attaque, on a certains joueurs excitants qui reviennent d'autres années. Donc, c'est Owen Beck, on en a parlé l'année dernière. On s'attend à avoir un encore meilleur camp. Maintenant, le thème, je pense, de ce qu'on parlait, qu'on voit beaucoup dans les attaquants, c'est la dernière chance. On a frotté un peu le sujet avec Meshar tantôt. Puis Meshar, c'est quand même un cas particulier parce que c'est sa première année pro. Fait l'année
Sa
pro,
première année pro qui peut pas revenir.
c'est ça, il peut pas aller au junior, là. On est obligé de l'avoir aux Rockets. Mais avec les gros défis qu'il y a eu dans les dernières saisons, tu sais, si ça marche vraiment pas cette... Bon, voilà, on l'a. Si ça marche vraiment pas cette saison, tu sais, ça pourrait justement être sa première et sa dernière chance en même temps. Ce qui est aussi le cas de Coudon. Luke Tuck, qui est un joueur qu'on a vu finir la saison l'année dernière avec le... Donc, tu sais, il a joué 3 matchs, lui et Florian Jacquet, sauf qu'à cause de la différence d'âge entre les deux sont pas rendus au même moment dans leur carrière. Luke Tuck a 22 ans, et donc c'est pour ça que je dis, tu sais, on l'a vu jouer 3 matchs cette saison, ça va être sa première saison complète en AHL, puis si ça marche pas cette saison, ben, ça va être un gars AHL, tu sais, juste s'il y a des aspirations pour être depth en LNH, lui, ça va être en ce moment qu'il va falloir le montrer.
Mais il y a deux autres gars qui,
Ouais.
selon moi, sont sur un siège éjectable. Puis quand je dis siège éjectable, c'est pas en mode que si ça marche pas au camp, ils sont hors de la saison. C'est que c'est un peu leur dernière saison. Puis je vais y aller avec Emil Heinemann, un gars qu'on avait vraiment aimé. Il était rentré à la fin de la saison, pas la saison passée, l'autre d'avant. Il était rentré et il avait vraiment fait une très bonne production, vraiment beaucoup de buts. Je pense en 11 matchs, 7 buts.
Ouais.
Puis à ce moment-là, il avait 20 ans. Et là, la saison passée, c'était comme un peu, OK, comment tu vas arriver au camp avec les performances? Et là, bon, il n'a pas fait une saison décevante. Il a même joué 4 matchs dans la Ligue nationale. Donc, il y avait clairement quelque chose que l'état-major du Canadien ont aimé. Mais là, ils l'ont renvoyé dans la liste des rookies. Et pour moi, ça veut vraiment dire à Emile, c'est là qu'il faut que tu nous prouves que tu es un gars. Parce que Emile Heinemann, contrairement à Ilonen, qui n'avait pas vraiment rapport sur un quatrième trio parce que c'est un gars purement offensif, Heinemann a vraiment le
Ouais,
build pour être
il est
un
rugueux.
troisième, quatrième. Il est rugueux. Ça va être un troisième ou un quatrième trio. Mais il faut qu'il prouve. Puis là, il faut qu'il tasse du monde cette année. Il faut que il arrive au camp et qu'il soit meilleur que des Barry Boulet, que des... bon, là, il est blessé, mais Harvey Pinard, Dvorak, t'sais,
Oui.
puis même ils sont pas à la même position, mais il faut qu'il prouve cette année qu'il est worth et qu'il peut jouer dans la Ligue
Le
nationale.
problème que Emil Heinemann a eu l'année dernière, puis tu sais. On va continuer dans ce thème-là aussi, mais Emil Heinemann, c'est pas nécessairement qu'il a eu une mauvaise saison l'année dernière. C'est que, tu sais, quand il est arrivé en AHL l'autre saison d'avant, il nous a impressionné. OK, wow, il est super utile. L'autre année d'après, il a comme été un tout petit peu moins bon que ça, tout en restant, tu sais, un joueur solide. C'est pour ça qu'il a eu quand même une chance avec le Canadien, mais il n'a pas continué sa pente d'amélioration. Ouais. Tu sais, quand tu amènes un joueur dans la AHL, elle veut pas, c'est une ligue de développement, même s'il y a des joueurs qui vont finir leur carrière là-bas ou bien tu sais, qui sont pas là pour se développer. Là. Mais pour beaucoup de joueurs, c'est une ligue de développement. Fait, ce que tu veux voir, c'est de l'amélioration. Tu veux voir, oui, montre-moi ce que tu fais de bien, mais montre-moi en plus. Il faut ouais. qu'il y ait comme une courbe. Comme quand on regarde au repêchage, le truc que je dis tout le temps, si le joueur s'est amélioré en courbe haute toute la saison, c'est un énorme drapeau vert. Mais quand le joueur est repêché, il faut que ça continue.
C'est ça.
Lui, ça a comme stagné puis ça a même reculé un peu.
Un peu.
Après, c'est sûr qu'il y a eu quelques blessures à Emil Heinemann, ouais. mais il est encore au camp. Ça va être sa chance cette saison. On se reprend, puis écoute, soit cette saison, justement, comme tu dis, il dépasse plein de gars, ou bien peut-être que tu sais finalement, ça va devenir un joueur qui reste plus AHL ou bien qui se fait dealer dans un paquet pour ouais, on ne sait pas quoi.
Ou qui, justement, comme Ilonen, se fait signer, puis il s'est juste fait signer. Donc, il y en a plein des joueurs de même. Puis je veux dire, aussi, le truc avec ça, c'est qu'Ironman, il est arrivé dans l'organisation du Canadien à un moment où est-ce que nos prospects n'étaient pas prêts à devenir pros. Ouais. Sauf que là, maintenant, ça fait 2 ans, là, il y a une couple de prospects qui commencent à pousser. On pense juste à un Joshua Roy qui commence à pousser. Ouais, et ouais. Joshua Roy, sa place est quasiment assurée dans le line-up du Canadien, selon moi. Et le dernier joueur que je veux dire qui est un peu sur, justement, un peu c'est la fin de son contrat, oui. Sean Farrell.
Ouais, ouais.
C'est un joueur qu'on avait beaucoup, beaucoup d'éloges, ouais. Renaud et moi, depuis longtemps.
L'année dernière, dans le quand on a fait au début de la saison, les redrafts du repêchage de ouais. Sean Farrell, c'était quelle année?
C'est 2020.
2020, c'est ça. Sean Farrell, on avait fait notre top 16, je pense, puis Sean Farrell était comme 14e dedans, tu sais, au début de la saison, avant qu'il aille sa blessure, qui lui enlève plein de temps dans la AHL, mais il était dans notre top 16 des joueurs qu'on aurait pris dans ce repêchage-là. Fait que, tu sais, juste pour dire à quel point on le mettait en haute estime,
ouais.
Là, un peu comme à la Heinemann, oui, il y a une blessure qui l'a retardé, mais lui, ce qui est décevant, c'est que il monte ses flashs de c'est beau, il est très il skate là, c'est magnifique le voir skater Sean Farrell. Ce qu'il faisait bien, il continue à le faire bien, mais ça stagne. Un moment donné, oui, tu skates super bien, mais il faut que tu ailles créer tes changes. Pourquoi? C'est souvent là, la comparaison que j'ai utilisée la saison dernière, c'était parce qu'il y avait Zachary Benson que j'aimais beaucoup au repêchage d'avant. Puis souvent, les joueurs comme Sean Farrell, c'était ça un peu mon point de référence. Pourquoi est-ce qu'un Zachary Benson marche en LNH puis qu'un Sean Farrell, lui, reste coincé en HL? Puis c'est juste le petit facteur du fait que tu y finis. Zachary Benson amène la puck au net, puis la finit. Sean Farrell, t'es super bon pour la promener partout dans la zone offensive, mais est-ce qu'il a fini? Regardez les stats. Non, tu sais, il la promène, il fait des belles passes, mais c'est jamais... Mais c'est souvent pas des passes décisives, puis son tir, ça donne pas tout le temps des buts. On veut un joueur comme ça que tu peux mettre sur ton premier power play, que tu peux mettre sur ta... Sean Farrell, c'est pas un joueur de quatrième ligne.
Mais non, c'est un joueur... justement, quand on parlait tantôt que, tu sais, comme Age ou comme Machar, c'est des gars qui... Ils doivent jouer sur un rôle offensif, donc il peut pas s'avancer sur une troisième ou quatrième ligne, ça va pas fonctionner. Puis Farrell, qu'est-ce qu'on trouvait? Pourquoi on l'a mis dans le top 16? Justement, c'est parce que dans la NCAA, vraiment, il avait quelque chose par-dessus tout le monde en termes de vision, vision du jeu, comment il installait le power play, comment il installait le jeu, comment il mettait ses coéquipiers dans des situations avantageuses incroyables, puis même il y avait un peu de rudesse. mais bon, c'est juste que là, à un moment donné, c'est ça. Peut-être que son temps commence à s'étirer. Moi, cette année, je pense vraiment que ça va être peut-être la dernière année qu'on le voit dans l'organisation des Canadiens.
Mais je pense
le fait que, justement, il y a trop de joueurs qui montent, puis il n'y a pas de place sur le top 6.
Je pense quand même qu'on va être certaines des personnes qui vont avoir le plus d'espoir quand même pour lui. Moi, j'ai vu des gens qui le classaient déjà comme un joueur AHL. Moi, je pense que c'est vraiment cette saison qu'on va le savoir. À cause de la blessure l'année dernière, c'est sa saison justement pour « Hey, prouve-le que tu as ce potentiel-là de jouer sur un rôle important dans une équipe LNH. » Parce que comme on dit, c'est pas un joueur qui va amener de la dette. Puis, écoute, pour finir en attaque, on peut juste finir un peu le cas de Mesher qu'on avait commencé tantôt, dans le sens, ça rentre un peu avec le premier que j'avais dit, le Luke Tuck, première et dernière chance. Philippe Mesher, on l'a dit tantôt, c'est sa première saison où on ne peut pas le renvoyer en Ligue junior, mais c'est juste sa première année en AHL. Écoutez, si Meschar a une saison de 20-25 points qui n'arrive pas à produire en AHL, son futur dans l'organisation du Canadien est vraiment très compromis. Là. Je ne veux pas dire que c'est sa dernière chance parce que je pense pas que l'année prochaine, il buy-out parce qu'il y a eu 20 points.
Non, non.
Mais un peu à la Riley Kidney, comme on a vu l'autre année d'avant, Riley Kidney produit à 105 points, je pense, dans sa dernière saison junior, arrive en AHL, il met juste 20 points dans sa première saison. Puis là, maintenant, quand on regarde dans le futur du Canadien, avec toute la compétition qu'il y a sur l'aile, au centre, en défense, dans toutes les positions, on commence à avoir des beaux prospects, des bons prospects. Si tu n'arrives pas avec le feu, ben, tu vas te faire dépasser par des gens comme justement Heinemann, des Farrell.
Mais regarde, contrairement à Riley Kidney, Meschar n'a pas été capable de mettre des statistiques incroyables dans la Ligue de l'Ontario. Et pour un choix de première ronde qui est offensivement, qui est juste axé offensivement, on ne l'a pas repêché pour son aspect défensif, son aspect brutalité. Vraiment, c'est décevant. Là. Je veux dire, dernière saison de 19 ans, 52 points, 45 matchs, c'est vraiment décevant. Même pas 20 buts, tu sais, dans le sens...
Puis on s'envoyait ses buts aussi. On s'envoyait des clips de, tu sais, bien, c'est sûr, on en a regardé aussi, mais tu sais, des fois, les gens mettaient « Hey, Flip Meschar », surtout au début de la saison, on parlait de à quel point il marquait des buts. Il parlait de « Hey, Flip Meschar a eu un hat-trick un peu comme Florian Jacquet », puis des fois, tu regardes le but que le joueur a marqué, puis t'es comme « Ouais ». Mais il y a beaucoup de buts que c'est vraiment beaucoup. Comme la même raison pourquoi tu dirais que Florian Jacquet ne sera pas un joueur qui va mettre 30 buts en LNH, c'est parce qu'il y a beaucoup des buts qu'il mettait, que c'est juste des buts, ben, en fait, que c'est des buts qui marchent 10 fois mieux en junior. Fait que tu vois, tu sais, si 20 de tes 30 buts, que c'est des buts comme ça, ça ne se transpose pas super bien au niveau plus haut.
Fait que donc, c'est ça, Meschar, je veux dire, est-ce que c'est le premier... choix au repêchage de Kent Hughes qu'on peut dire qui est vraiment douteux. Je pense que dès la journée du repêchage, on aurait pu dire ça. Puis bon, ben ça, en ce moment, on dirait pas que le pari de Kent Hughes a vraiment payé. Mais bon, là, on vient de parler un peu du négatif, mais il y a vraiment du positif. Puis je pense que tout le monde ici a vraiment hâte de le voir. Ben moi, je pense que c'est la défensive.
Ouais.
C'est peut-être la meilleure défensive ou en tout cas le top 4 d'une défensive dans un camp de recrues. Depuis de longues années, puis quand même l'année passée, on avait un très bon là, avec Luno, Mintyukov, et tu sais, Zellweger, mais là, Mayo, Hudson, Engstrom, Runbacker, deux gauchers, deux droitiers. Mm-hmm. Je veux dire, Hudson, il était incroyable. On n'a pas besoin de s'étaler sur lui, mais dans le sens que moi, je pense que ce joueur-là va rentrer dans la Ligue nationale dès le début. Par la suite, on a Mayo qui a eu une saison incroyable en AHL. Puis moi, je le dis, là, incroyable pour ce gars-là. Vraiment, là, il a montré qu'il est un joueur qui va jouer dans la Ligue nationale. Il est devenu pas juste le joueur qui avait de l'offensive dans la OHL avec les Knights. Il est vraiment devenu beaucoup plus complet, beaucoup plus fiable, même si, bon, encore une fois, on va pas le mettre en désavantage numérique, mais il y a vraiment des meilleures prises de décision. Puis là, par la suite, Runbacker puis Engstrom, Runbacker, vraiment, je veux dire, moi, je pense que beaucoup de monde le sous-estime encore. Ouais. Et Engstrom, encore une fois, justement, je pense qu'il est sous-estimé énormément, puis que ça pourrait vraiment être... en tout cas, moi, j'ai hâte de voir, parce que je me dis, ces quatre défenseurs-là qui ont des recrues de Toronto qui sont très faibles, dans le sens que c'est vraiment pas le même pool que le Canadien. J'ai hâte de voir, peut-être qu'on fait deux blanchissages.
Ouais, ben ça serait pas pire, hein, mais ça va être super excitant à voir. Puis il y a des gars, justement, là, ce qui est excitant, c'est qu'il y a des gars que ça fait, ben en fait, il y a un gars surtout, le Engstrom, que ça fait plusieurs années qu'on parle de lui, qu'on attend de voir quand est-ce qu'il va venir avec le Rocket en fin de saison. Puis finalement, il continue à jouer. L'année dernière, il met 22 points en 52 matchs en SHL pour un défenseur de 6 pieds 2 qui est capable de frapper, qui est capable de faire des bons jeux défensifs. Tu sais, est-ce que ce jeu-là va se transposer en Amérique du Nord? Avec Runbacker, on avait les mêmes doutes. Puis finalement, quand il est arrivé, écoutez, il y a personne que c'est parti fini, qu'on peut dire, hey, c'est bon, signe-le à 15 ans pour un contrat de sa vie. Wow. On sait qu'il va, tu sais, mais Runbacker était quand même très, très à l'aise en AHL. Fait, tu sais, est-ce que Engstrom, ça va donner la même chose? J'ai tellement hâte de voir parce que ça fait quand même longtemps qu'on en parle. Puis, je pense qu'il faut juste pas se laisser l'opinion d'Engstrom être teintée avec le parce qu'avant, on en parlait beaucoup avec Mathias Norlander. Wow. C'est pas du tout... je sais pas s'il y en a qui regardent, qui ont eu cette comparaison-là déjà, là, mais c'est pas du tout le même type de joueur. Un Norlander a pas les muscles et il peut
Mais
pas faire
la
autant
carrure.
mal que Engström, mais les deux ont produit quand même à un taux similaire en Suède, même que Engström.
La seule affaire, c'est qu'Engström a produit en SHL,
C'est
donc la
ça.
première ligue de Suède.
Mais c'est ça.
Norlander ne s'est jamais rendu dans cette ligue-là. Norlander, c'était tout du
Ben,
hype
tu vois qu'il
bâti
vient
sur
de
la hype
signer.
du Heinsken. Ben là, il vient de
C'est
signer
ça, on
là,
va
mais dans le
voir.
sens qu'il vient de signer là maintenant. Mais
Ouais.
lui, sa fenêtre est finie. Alors qu'Engström,
Mais c'est ça.
il produisait, il a joué avec Rögle, l'organisation qui a bien développé Moritz Seider. Puis Engström, l'année passée, je ne sais pas si les gens s'en rappellent, mais moi, je me rappelle au camp des recrues, justement. Vraiment, il était, je trouve, une coche de plus que le défenseur moyen ou que le joueur moyen qui était sur les matchs. Là. Vraiment, c'est ça, tu l'as dit, grand et tout, mais c'est surtout aussi son intelligence, la manière que
Ouais.
offensivement il est capable de placer des jeux, c'est sa prise de décision. Donc, le petit raffinement qu'il va avoir à faire, c'est peut-être justement le jeu défensif de le rendre encore plus
Ouais.
solide, mais c'est un défenseur qui pourrait devenir two-way excellent. Puis je pense qu'on peut en ligner dans la dernière catégorie, là, mais c'est les pics un peu que pour moi qui pourraient causer des grandes surprises. Puis Engström, c'est le troisième joueur que je pense qui pourrait causer une surprise, dans le sens que Mailloux, Hudson, Rennbacker, selon moi, vont être très solides, puis on va vouloir les voir dans le club du Canadien parce qu'ils vont être très forts. Mais Engström, je pense que c'en est un que peu de personnes parlent et qui pourrait vraiment montrer à quel point il est pas tant loin de la ligne nationale. Mon premier choix, je pense, qui pourrait vraiment nous surprendre, tu l'as dit tantôt, c'est quelqu'un qui est un peu à sa dernière année de vraiment échange, même si c'est sa première saison professionnelle complète. Mais Luke Tuck, l'année passée, quand il est rentré dans la AHL, il ne semblait pas du tout intimidé, il ne
Non.
semblait pas vraiment out of place. Puis Luke Tuck, justement, le frère d'Alex Tuck, gros, vraiment pas le même coup de patin, vraiment pas les mêmes habiletés, mais un joueur de troisième, quatrième trio, moi je dirais quatrième trio, pourrait dès cette année avoir justement l'utilité sur le quatrième trio.
Puis juste si on compare, là, je veux dire, parce que Luke Tuck a quand même 2 ans de plus, je pense, que Florian, c'est
Ouais.
ça, Florian a 20, Luke Tuck a 22. T'sais, quand on regarde leurs stats là, sur DB, 3 matchs, les deux ont 0 à 6, 0 but. Mais quand, t'sais, puis nous, c'est des matchs, je pense qu'on a été là
On a
pour
été là.
deux des trois
Ouais.
de ces gars-là, j'ai trouvé quand même que Luke Tuck avait un petit edge. Le 2 ans paraît, quand tu le regardes jouer sur la glace, il a l'air plus en confiance, plus à l'aise que Jack High. Puis c'est normal aussi parce qu'il a eu l'occasion de jouer, lui, déjà contre des adultes en NCAA. Mais tu sais, tout ça pour dire que je crois vraiment que Luke Tuck pourrait arriver cette saison directement, montrer l'impact qu'il peut avoir, puis justement se faire un chemin pour être, tu sais, peut-être justement la surprise sur le quatrième trio du Canadien du futur.
Ouais, mais comme Jaden Struble, dans le
Ouais.
sens que Jaden Struble, il avait le même âge l'année passée. Il est rentré très solide dans la NHL, puis au milieu de la saison, il a été monté. Donc, Luke Tuck, je pense que si c'est pas au début de la saison parce qu'on a trop de contrats, je pense qu'il pourrait justement montrer à Kent Hughes, hey, je suis prêt à jouer en haut, fais des échanges, tasse du monde pour que moi je rentre en haut. Puis mon dernier, ma dernière surprise, tu l'as dit, Florian Jacquet, je pense que on peut pas bet contre les Jacquet. Puis à date, ils ont l'air de vraiment justement prouver leur valeur. Jacquet, il a eu une saison époustouflante, on va le dire offensivement, même si c'était sa saison de 20 ans, dans le sens que c'était un joueur qui faisait à peine 20 points et là, il est arrivé avec
Ouais.
plus d'un point par match. C'est comme tu l'as dit, ça va pas être un buteur de 30 buts dans la Ligue nationale, mais il a les aptitudes pour être capable de quand même être dangereux offensivement, tout en étant rugueux, vraiment intimidant. Donc, j'imagine même pas une équipe jouer contre les deux Jacky en même temps sur la glace, ça doit faire assez peur. Tu sais pas qui va te frapper, à quel moment. Mais donc, Jacky, je pense que ça pourrait être une surprise. Il y a plus de latitude avec lui, bien évidemment, parce qu'il est plus jeune. Donc, est-ce que ça va être le premier à se faire rappeler? Je pense que Luke Tuck aurait
Ouais.
plus de chances de se faire rappeler avant Jacky. Mais je pense pareil que Jacky, il faut pas l'enlever de la conversation, dans le sens que je pense qu'il pourrait surprendre cette année au camp, puis justement devenir quand même quelqu'un de plus parler là, pour jouer un match de saison.
Mais là, c'est ça, vraiment la différence qu'il y avait entre les deux, moi, que j'ai vu dans les 3 derniers matchs, c'est que sure, Luke Tuck a pas fini avec un point, mais c'était vraiment en zone offensive
Ouais,
où il y avait plus cette aisance-là.
c'est
Quand
ça.
Luke Tuck était sur la glace, il créait des chances. Fait que là, Florian, cette année, son challenge, ça va être, tu sais, il n'y a aucun stress à part le nom de famille qui t'est mis dessus. Puis même ça, c'est pas comme si c'était le fils de Maurice Richard. C'est le frère de Harbour Jacky, un défenseur de troisième paire. Mais le challenge, c'est ça. Ça va être d'arriver en HL puis d'arriver à, tu sais, comment est-ce que j'adapte ma production à un niveau plus haut. Là, écoutez, pour finir, on a eu quand même un commentaire là-dessus. Vous allez voir qu'il y a une petite erreur sur, en fait, pas une erreur, là, mais il y a une correction à faire sur leur fiche de camp des recrues. Malheureusement, on a Quentin Miller qui a eu une blessure dans un match de pré-saison, il y a tout récemment, comme c'est Philippe qui nous disait. Salut Philippe, merci. Il sera pas là au camp. On a Samuel Richard qui va être là, qui était déjà invité, puis ils en ont invité un deuxième, je me souviens plus c'est quoi le nom, mais Samuel Richard, c'est un gardien de U-Sport. Écoutez, on a plein de gardiens, ça m'étonnerait qu'il fasse une des équipes, peut-être Trois-Rivières un jour, là. Mais il y a eu une saison incroyable en U-Sport, on en avait parlé quand la saison était finie. C'est tout un exploit ce que son équipe a fait.
En fait, il a fait 16 matchs, 16 victoires, donc c'est ça.
Puis en série,
c'est ça, la même affaire. Donc, justement, est-ce qu'il y a de la place pour aller signer un gardien? Peut-être pas, puis justement, il est encore dans le système du Nouveau-Brunswick. Donc, ça m'étonnerait que ça soit le gardien qu'on signe et qu'on garde pour le Lyon et tout, parce qu'on a déjà comme 8 goalers, je pense, dans l'organisation. Puis là, je parle signé, là, je parle même pas de Fowler, Miller, justement, et Volokhin.
Il est 6 pieds aussi.
Puis il est 6 pieds, donc c'est sûr que ça souvent, ça fait peur un peu aux équipes, mais bon... on verra, c'est à lui de nous épater.
Ça serait cool, parce que quand on parlait justement de l'épisode de comment améliorer le U-Sport, là, avoir un exemple comme ça d'un joueur qui, tu sais, je dis pas que ça va être lui, là, mais avoir un exemple d'un joueur qui arrive à avoir une saison extraordinaire en U-Sport, se faire signer peut-être pas à Montréal, on n'a pas de place pour ça, mais quelque part en AHL, réussir, puis à un moment donné, tu sais, peut-être juste être un backup dans la LNH, ça serait tellement un gros boost pour le hockey universitaire canadien. Ben, écoutez, sur ce, on se retrouve à la même heure la semaine prochaine, un tout petit peu plus tôt cette saison, mais ça nous permet de faire des épisodes un peu plus longs au besoin sans finir crevé. Là, tu sais, c'est le fun de ne pas finir à 9 heures. Mais merci de nous re-regarder pour une autre saison, puis on a hâte de vous présenter. Là, on a parlé de l'été du Canadien, on va parler de l'équipe du Canadien quand ça va être à la fin du camp, qu'on va avoir plus d'analyses, qu'on va avoir l'équipe complète, mais on va aussi parler de quoi regarder dans le hockey de CHL. Des analyses d'espoir qui arrivent. On vous prépare un compte de Dans le Mille où il va y avoir du contenu qui est plus hors du podcast. Donc, des analyses de jeu en solo, des analyses de moi en solo.
On aura plus de temps. On va mettre plus de temps, en fait, sur justement la production de contenu à l'extérieur des podcasts. Oui. Puis je pense justement, on va être plus prêt cette année.
On vous donne toute l'information, je vous dirais, vers la fin septembre quand le hockey junior va être parti. Mais c'est ça, il va y avoir du contenu exclusif sur la bande. Les épisodes disponibles en rediffusion sur la propre chaîne de, j'ai dit sur la bande, mais c'est Dans le Mille. Puis c'est ça, sur ce, comme je disais, on va faire des previews. Ça, c'est sur la chaîne de sur la bande. En live, on va faire des previews. PWHL, ça arrive. Le hockey junior, ça arrive. Les Canadiens qui ont le roster final. Puis le reste de la LNH, là. Comme d'habitude, le début de saison, on manque pas de sujets.
Puis on est toujours média pour la Ligue canadienne de hockey et même pour la PWHL de l'équipe de Montréal. Donc c'est ça, c'est sûr que ça aide à améliorer notre couverture. Donc sur ce, suivez-nous, abonnez-vous à notre page Facebook, YouTube et on se voit sur la semaine prochaine.
Bonne soirée tout le monde.